Chapitre 86. César voulait donc être roi. Au reste, il avait amassé contre lui d'autres griefs, et il est curieux de lire ces quelques lignes dans Suétone. On lui reproche des actions et des paroles qui n'en sont rien autre chose qu'un abus de pouvoir et qui peuvent justifier sa mort. Voyons donc ces actions et ces paroles qui peuvent justifier la mort de César sous la plume de ce narrateur indifférent qu'on appelle Suétone, et qui, après avoir perdu sa place de secrétaire de l'empereur Adrien, pour s'être permis des libertés peu respectueuses avec l'impératrice Sabine, se mit à écrire, sans s'étonner ni s'indigner jamais, l'histoire des 12 Césars. Ce qu'avait fait le divin Julius, vous allez le savoir. Non content d'accepter les honneurs excessifs, comme le consulat prolongé, la dictature perpétuelle, les fonctions de censeur, les noms d'empereur et de père de la patrie, non content de permettre que sa statue fût élevée parmi celles des rois et d'occuper une chaise dans l'orchestre, il alla jusqu'à excéder les bornes de la grandeur humaine. Il eut une chaise d'or dans le Sénat et dans son tribunal. Sa statue fut portée dans le cirque avec la même pompe que celle des dieux. Il eut des temples, des autels, des prêtres. Il donna son nom à un mois de l'année, juillet. Il se joua également des dignités qu'il prodiguait et de celles qu'il recevait. Tout cela valait-il la mort? Il est vrai qu'il avait fait encore autre chose. Un tribun avait refusé de se lever sur son passage. « Tribun, avait-il dit, viens-tu me redemander la République ?» Et comme ce tribun se nommait Pontius Aquila, César, chaque fois qu'il donnait un ordre, avait l'habitude de dire par ironie « Si toutefois Pontius Aquila le permet !» Un jour qu'il revenait d'Albe, des amis par trop pressés vinrent au-devant de lui et lui donnèrent le titre de roi. Mais César, voyant le trouble que ce titre excitait parmi le peuple, fit semblant d'être offensé et dit « Je ne m'appelle pas roi, je m'appelle César. » Et l'on remarqua qu'il poursuivait son chemin d'un air mécontent. Un autre jour que le Sénat lui avait décerné des honneurs extraordinaires, les sénateurs se rendirent sur la place pour lui faire part du décret. Mais lui, leur donnant audience comme à de simples particuliers, leur répondit sans se lever qu'il fallait diminuer ses honneurs plutôt que de les augmenter. Maintenant, pourquoi ne se leva-t-il point devant le Sénat? Plutarque prétend que ce fut l'Espagnol Balbus qui le retint assis en disant « Oublies-tu que tu es César ?» Dion Cassius donne une raison qui nous paraît meilleure. Il dit que celui qu'on venait de faire Dieu avait la colique et craignait, en se levant, de donner une preuve flagrante d'humanité. Lui, César, allègue la crainte d'une attaque d'épilepsie. Un autre jour enfin, le jour des Lupercales, qui avait été autrefois une fête de bergers, mais où, à cette époque, les jeunes gens des premières maisons de Rome et la plupart des magistrats couraient nus par la ville, armés de bandes de cuir dont ils frappaient indifféremment tous ceux qu'ils rencontraient. Ce jour-là, César, assis sur un siège d'or, assistait à la fête. Ce siège d'or revient bien souvent. C'est que les sièges d'or étaient réservés pour les cérémonies religieuses. César, assis sur un siège d'or, assistait donc à cette fête, quand Antoine, qui, en sa qualité de consul, figurait dans la course sacrée, se haussant dans les bras de ses amis, lui présenta un diadème enlacé d'une branche de laurier. Quelques hommes, apostés à cet effet, battirent des mains. Mais César repoussa l'offrande et tout le monde applaudit. Alors Antoine présenta une seconde fois le diadème, soutenu par les mêmes compères. Mais, une seconde fois, César fit un geste de refus, et cette fois, les applaudissements éclatèrent, plus universels encore. « Portez ce diadème au Capitole !» dit César en se levant. Quelques jours après, les partisans de César, n'ayant pu le couronner lui-même, couronnèrent ses statues. Mais deux tribuns du peuple, Flavius et Marcellus, arrachèrent de leurs mains ses diadèmes et, ayant rencontré ceux qui avaient salué César roi à son retour d'Albe, les firent arrêter et conduire en prison. Le peuple suivait ses magistrats en battant des mains et en les appelant des Brutus, en souvenir de l'ancien Brutus qui avait mis fin à l'autorité monarchique et transféré au peuple le pouvoir des rois. On rapporta ces propos du peuple à César. « Des Brutus » répéta-t-il. « Ils veulent dire des brutes et pas autre chose. » Quant aux deux tribuns, il les cassa. Mais cela ne décourage pas les amis. Ils découvrent dans les livres sibyllins qu'un roi seul peut vaincre les Parthes. Donc, si César entreprend la guerre parthique, il faut qu'il soit roi ou il risque d'y laisser sa tête comme Crassus. Au reste, de la dictature à vie à la royauté, il n'y a qu'un pas. Quant à Rome, à peine s'apercevra-t-elle de la différence. Tout ne prend-il pas la forme des royautés d'Orient? César n'est-il pas Dieu comme les rois d'Asie? N'a-t-il point son prêtre Antoine? Antoine qui marche près de la litière impériale, la tête avancée dans la portière et demandant humblement les ordres du maître. Croyez-vous que ce soit le peuple que cela révolte? Non, c'est l'aristocratie. Croyez-vous que ce soit pour tous ces méfaits que César a été tué? Non, à notre avis, 100 fois non. Pourquoi a-t-il été tué? Je crois que je vais vous le dire. Cassius, l'envieux Cassius, en voulait à César pour avoir donné à Brutus une préture plus honorable que la sienne, et parce que, pendant la guerre civile, César lui avait, en passant à Mégare, pris des lions qui l'y nourrissaient. Tuer ou prendre les lions d'un homme, c'était lui faire une mortelle injure. Les trois seuls hommes auxquels César ne pardonna pas, lui qui pardonna à tout le monde, ce fut le jeune Lucius César et les deux autres Pompéiens qui avaient égorgé ses affranchis, ses esclaves et ses lions. Chez nous, tout marquis voulait avoir des pages, à Rome, tout patricien voulait avoir ses lions. Hélas, dit Juvénal, un poète mange moins pourtant. Cassius alla trouver Brutus. Il avait besoin d'un honnête homme pour proposer la terrible action qu'il méditait. « Oh, grand Shakespeare, comme tu as compris cela, toi, mieux que tous nos pauvres professeurs d'histoire romaine. Relisez dans le grand poète anglais cette scène entre Cassius et Brutus. » Si Brutus voulait attendre tranquillement la mort de César, Brutus était son successeur naturel. Peut-être eût-il rendu la liberté à Rome sans les instances de Cassius. Mais Brutus ne haïssait que la tyrannie, tandis que Cassius haïssait le tyran. Du reste, un seul trait indiquera ce qu'était Cassius. Étant enfant, Cassius allait à la même école que Faustus, fils de Sylla. Un jour, Faustus se mit, devant ses jeunes camarades, à exalter son père et à applaudir la puissance absolue dont celui-ci avait joui. Cassius, qui l'entendait de sa place, se leva, alla à lui et lui donna un soufflet. L'enfant s'en alla se plaindre à ses parents, qui voulurent poursuivre Cassius en justice. Mais Pompée intervint et appela les enfants chez lui pour les interroger. « Voyons, demanda Pompée, racontez-moi comment la chose s'est passée. »« Allons, Faustus, dit Cassius, répète devant Pompée, si tu l'oses, les propos qui t'ont valu un premier soufflet pour que je t'en applique un second. » Brutus était une grande âme, mais un esprit étroit. Il était de l'école stoïque et grand admirateur de Caton, dont il avait épousé la fille. Il y avait en lui un étrange besoin d'efforts douloureux et de sacrifices cruels. Il haïssait Pompée, qui avait brutalement, barbarement, tué son père, et nous l'avons vu aller rejoindre Pompée en Grèce et combattre sous lui à Pharsale. De retour à Rome, César lui avait confié la province la plus importante de l'Empire, la Gaule Cisalpine. Brutus avait un remords, il ne pouvait haïr César. Cassius avait essayé de tout mener sans Brutus. Il n'avait pu y réussir. Il avait visité ses amis les uns après les autres, à chacun d'eux il avait exposé son plan de conjuration contre César, et chacun d'eux avait répondu « J'en suis, si Brutus consent à être notre chef. » Comme nous l'avons dit, Cassius alla trouver Brutus. Ces deux hommes étaient brouillés. Ils avaient, nous l'avons dit encore, sollicité la même charge, et comme chacun d'eux faisait valoir ses droits, « Cassius a raison, avait dit César, mais cependant je nomme Brutus. » C'était Cassius qui s'était écarté, c'était Cassius qui revenait. Brutus lui tendit la main. « Brutus, demanda Cassius après les premiers compliments échangés, n'as-tu pas l'intention de te rendre au Sénat le jour des calendes de mars? J'ai entendu dire que, ce jour-là, les amis de César doivent proposer pour lui la royauté. » Brutus secoua la tête. « Non, dit-il, je n'irai point. »« Mais cependant, si nous y sommes appelés, reprit Cassius. »« Alors, dit Brutus, mon devoir sera de m'y rendre.
Et si l'on attaque la liberté ?
Je jure de mourir avant de la voir expirer.
Cassius haussa les épaules.
Et quel est le Romain, dit-il, qui voudrait consentir à la mort ? Ignores-tu donc qui tu es et ce que tu vaux, Brutus ?
Brutus fronça le sourcil.
N'as-tu pas lu, continua Cassius, ces écriteaux que l'on a trouvés au pied de la statue de l'ancien Brutus ?
Si fait, il y en avait deux, n'est-ce pas ?
L'un disait, plutôt Dieu que tu fusses encore vivant, Brutus.
Et l'autre, pourquoi as-tu cessé de vivre ?
Et moi-même, ajouta Brutus, j'ai trouvé un billet sur mon tribunal avec ces trois mots.
Tu dors, Brutus.
Puis un autre encore sur lequel était écrit,
non, tu n'es pas véritablement Brutus.
Eh bien, demanda Cassius, crois-tu que ce soit des tisserands et des cabaretiers qui écrivent de pareils billets ?
Non, c'est tout le patricien, c'est toute la noblesse de Rome.
Ce que l'on attend des autres prêteurs, tes collègues, ce sont des distributions d'argent, des spectacles, des combats de gladiateurs. Mais ce que l'on attend de toi, c'est le paiement de la dette héréditaire, et cette dette, c'est la délivrance de la patrie. On est prêt à tout souffrir pour toi si tu veux te montrer tel qu'on pense que tu dois être.
C'est bien, dit Brutus, je réfléchirai.
Et Cassius et Brutus étant séparés, chacun d'eux alla trouver ses amis. On se rappelle Quintus Vigarius qui avait suivi le parti de Pompée et pour lequel Cicéron avait plaidé devant César. Vigarius avait été absous par le dictateur. Mais peut-être, à cause de la clémence même de César, était-il devenu son plus mortel ennemi. Au reste, Vigarius était très attaché à Brutus. Celui-ci alla le voir et le trouva malade dans son lit. Brutus quittait Cassius, tout échauffé encore de sa conversation avec lui.
« Ah, Ligarius, dit-il, dans quel moment es-tu malade ?»
Mais Ligarius, se soulevant et s'appuyant sur le coude,
« Brutus, dit-il en serrant la main de son ami, si tu formes quelque entreprise digne de toi, ne sois pas inquiet, je me porte bien. »
Alors Brutus s'assit au pied de son lit et tous deux arrêtèrent les bases de la conspiration. Il fut convenu qu'on n'en dirait rien à Cicéron, Cicéron étant vieux et joignant à son peu d'audace naturelle la circonspection des vieillards. Ligarius, à défaut de Cicéron, offrit à Brutus de s'adjoindre le philosophe épicurien Statilius et ce même Favonius qu'on appelait le singe de Caton. Mais Brutus, secouant la tête,
« Non, dit-il, un jour que je m'entretenais avec eux, j'ai hasardé là-dessus un vague propos, mais Favonius m'a répondu qu'une guerre civile était à ses yeux plus funeste que la plus injuste des monarchies.
Et Statilius, qu'un homme sage et prudent, ne s'exposait point au danger pour des méchants et des fous.
L'abbé en était là et pourra te rendre témoignage de leur réponse.
Et qu'a dit l'abbé en ? Demanda Ligarius.
L'abbé en fut de mon avis et les réfuta tous deux.
Alors l'abbé en ne refuserait point d'être des nôtres ?
« Je ne le crois pas. »«
Lequel de nous deux le verra ?» demanda Ligarius.
« Moi, dit Brutus, moi qui me porte bien, je verrai en outre Brutus Albinus. »«
Oui, reprit Ligarius, c'est un homme actif et courageux et qui, entretenant des gladiateurs pour les spectacles, nous serait fort utile dans l'occasion. Mais il est ami de César. »«
Dit qu'il est lieutenant de César. »
En ce moment même, entra justement Brutus Albinus. Il venait s'informer de la santé de Ligarius. On lui parla de la conjuration. Albinus réfléchit, resta muet, puis sortit sans répondre un mot. Les deux amis crurent qu'ils avaient fait une imprudence. Mais le lendemain, Albinus alla trouver Brutus.
« Es-tu le chef de la conjuration dont tu m'as parlé hier au soir chez Ligarius ? » demanda-t-il.
« Oui, répondit Brutus.
Alors j'en suis et de grand cœur. »
La conjuration fit rapidement de grands progrès. Brutus, qui voyait les plus illustres personnages de Rome s'attacher à sa fortune, n'oublions jamais que la conspiration de Brutus fut toute aristocratique. Brutus, qui envisageait la grandeur du péril auquel il s'exposait et dans lequel il entraînait ses complices, s'étudiait à rester en public parfaitement maître de lui-même et à ne laisser rien transparaître du complot dans ses paroles, dans son maintien ou dans ses actions.
mais rentrer chez lui, c'était tout autre chose. L'insomnie le poussait hors de son lit et, comme une ombre, il errait dans son vestibule et dans son jardin. Alors Porcia, sa femme, qui couchait près de lui, se réveillant et se trouvant seule, s'inquiétait. Souvent, elle l'entendait marcher dans les corridors. Plus d'une fois, elle le vit s'enfoncer sous les arbres du jardin. C'était, on le sait, la fille de Caton. À 15 ans, elle avait été mariée à ce Bibulus que nous avons vu jouer un rôle au forum dans les troubles excités par César et qui était mort commandant la flotte de Pompée. Restée veuve avec un fils, mais pourtant toute jeune encore, Porcia avait épousé Brutus. Ce fils, dont nous parlons ici, laissa un livre intitulé « Mémoire de Brutus », livre perdu aujourd'hui, mais qui existait encore du temps de Plutarque. Or Porcia, fille de Caton et adorant son mari Brutus, était une femme philosophe, ce que la Bible appelle une femme forte. Elle ne voulut rien demander à Brutus de son secret avant d'avoir fait sur elle-même l'épreuve de son courage. Elle prit un couteau à couper les ongles, espèce de canif à lame droite, et se l'enfonça dans la cuisse. La blessure ayant ouvert une veine, Porcia non seulement perdit beaucoup de sang, mais encore fut saisie de douleurs très vives, accompagnée d'une violente fièvre. Brutus, qui de son côté adorait Porcia et qui ignorait la cause de cette indisposition, était dans la plus grande inquiétude. Mais elle, souriant, ordonna à tout le monde de la laisser avec son mari, et quand ils furent seuls ensemble, elle lui montra la blessure. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria Brutus, encore plus effrayé qu'auparavant. « Je suis fille de Caton et femme de Brutus, » répondit Porcia. « Je suis entrée dans la maison de mon époux, non pour être sa compagne au lit et à la table comme une concubine, mais pour partager avec lui les biens et les maux. Tu ne m'as donné, depuis notre mariage, aucun sujet de plainte. Mais moi, quelle preuve t'ai-je donnée de ma reconnaissance et de ma tendresse, et quelle preuve pourrais-je t'en donner si tu me crois incapable de garder un secret ? Je sais qu'on tient la femme pour un être faible. Mais, cher Brutus, la bonne éducation et le commerce des gens vertueux peuvent t'élever et affermir l'âme. Or, comme si je t'avais dit toutes ces choses sans t'en fournir la preuve, tu eusses pu douter, j'ai fait ce que tu vois. Doute maintenant. Ô Dieu, dit Brutus en levant les mains au ciel, tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder un succès si complet dans mon entreprise que la postérité me juge digne d'avoir été l'époux de Porcia. Et aussitôt, lui faisant donner tous les secours qu'exigeait son état, il rentra dans une telle sérénité, malgré les avertissements que les dieux donnèrent par des prédictions, par des prodiges et par les signes des victimes, personne ne crut à la réalité du complot. Quels étaient ces présages et quelle foi peut-on y ajouter ? Il faut bien y croire, puisque tous les historiens les racontent et que, après les historiens, Virgile leur donne la consécration de ces beaux vers. Nous allons donc feuilleter Suétone et Plutarque. On se rappelle que César avait relevé Capoue et repeuplé la Campanie. Des colons qu'il y avait envoyés, voulant y bâtir des maisons, fouillèrent d'anciens tombeaux avec d'autant plus de curiosité que, de temps en temps, ils rencontraient des sculptures antiques. Or, dans un endroit où l'on disait que Capis, le fondateur de Capoue, avait été enterré, ils trouvèrent une table d'airain avec une inscription grecque qui signifiait que, lorsqu'on découvrirait les cendres de Capis, un descendant d'Iule serait mis à mort par la main de ses proches et vengé par les malheurs de l'Italie. On ne peut, dit Suétone, regarder ce fait comme fabuleux. C'est Cornelius Valbus, ami intime de César, qui le rapporte. Cet avertissement ne fut point caché à César, et comme à ce propos, justement, on lui disait de se défier de Brutus, c'est alors qu'il aurait répondu « Eh, quoi, croyez-vous donc que Brutus soit si pressé qu'il n'attende pas la fin de cette misérable chair ?» On lui annonça encore, et presque en même temps, que les chevaux qu'il avait consacrés lors du passage du Rubicon et qu'il avait laissé paître en liberté s'abstenaient de toute nourriture et pleuraient abondamment. Au rapport de Strabon le philosophe, on vit en l'air des hommes de feu marcher les uns contre les autres. Le valet d'un soldat fit jaillir de sa main une flamme très vive. On crut que sa main serait brûlée, mais quand la flamme fut éteinte, la main n'avait aucun mal. Ce n'est pas tout. Dans un sacrifice offert par César, on ne trouva point de cœur à la victime, et c'était le présage le plus effrayant que l'on put rencontrer, aucun animal ne pouvant vivre sans cet organe essentiel. Dans un autre sacrifice, l'augure Spurina avertit César que, pour les ides de mars, il était menacé d'un grand danger. La veille de ces ides, des oiseaux de différentes espèces mirent en morceaux un roitelet qui s'était perché sur la salle du Sénat, avec un rameau de laurier dans le bec. Le soir où ce présage s'était manifesté, César soupait chez Lépide, où, suivant l'habitude, on lui apporta ses lettres à signer. Pendant qu'il signait, les convives proposèrent cette question. « Quelle mort est la meilleure ?»« La moins attendue, » dit César en signant. Après le souper, il rentra dans son palais et se coucha près de Calpurnie. Tout à coup, et pendant la première phase de son sommeil, les portes et les fenêtres s'ouvrirent d'elles-mêmes. Réveillé par le bruit et par la clarté de la lune qui se répandait dans sa chambre, il entendit Calpurnie, qui dormait, elle, d'un profond sommeil, pousser des gémissements confus et prononcer des mots inarticulés. Il la réveilla et lui demanda ce qu'elle avait à gémir ainsi. « Oh, cher époux, dit-elle, je rêvais que je te tenais, percé de coups, entre mes bras. » Le lendemain, on vint lui annoncer que, d'après son ordre, on avait, dans les différents temples de Rome, égorgé 100 victimes pendant la nuit, et que pas une n'avait donné un augure favorable. César resta un instant pensif, puis se levant. « Bon, dit-il, il n'arrivera jamais à César que ce qui doit lui arriver. » On était au 15 mars, jour que les Romains appelaient le jour des Ides. Le Sénat, par extraordinaire, était convoqué sous un des portiques environnant le théâtre. Sous ce portique, garni de sièges pour la circonstance, était la statue que Rome avait élevée à Pompée, après que celui-ci avait embelli le quartier en y faisant construire le théâtre et ses portiques. Le lieu semblait choisi à la fois par la vengeance et par la fatalité. L'heure arrivée, Brutus, sans confier son dessein à d'autres que Portia, sortit de chez lui, un poignard caché sous sa toge, et se rendit au Sénat. Les autres conjurés étaient assemblés chez Cassius. Ils délibéraient si l'on ne devait pas se défaire d'Antoine en même temps que de César. D'abord, il avait été question de faire entrer Antoine dans le complot. La plupart avaient été d'avis qu'on le devait admettre. Mais Trébonius s'y opposa, disant que, lorsqu'on était allé au-devant de César à son retour d'Espagne, il avait, lui, Trébonius, constamment voyagé et logé avec Antoine, et qu'alors il lui avait fait une légère ouverture sur un projet pareil à celui qui allait être mis à exécution, mais que, quoiqu'Antoine eût parfaitement compris, il avait gardé le silence. Il est vrai que, de notre côté, il n'avait rien dit à César. Sur cette révélation de Trébonius, on avait laissé Antoine en dehors. Mais le moment venu, il n'était plus seulement question de laisser Antoine en dehors. Plusieurs allaient jusqu'à penser qu'il était prudent de le frapper en même temps que César. Brutus arriva sur ces entrefaites et son avis fut demandé. Mais il refusa sa voix à ce nouveau meurtre, disant qu'il le regardait comme inutile et qu'une entreprise si hardie, dont le but était le maintien de la justice et des lois, devait être pure de toute injustice. Cependant, comme quelques-uns craignaient la vigueur extraordinaire d'Antoine, il fut convenu que l'on attacherait à sa personne 2 ou 3 des conjurés, afin qu'ils le retinssent hors du Sénat, tandis que le meurtre s'accomplirait à l'intérieur. Ce point résolu, on sortit de la maison de Cassius. La réunion avait pour but apparent d'accompagner le fils de Cassius, qui allait prendre la robe virile. Les conjurés accompagnèrent, en effet, le jeune homme jusqu'au forum. Mais de là, entrant sous le portique de Pompée, ils y attendirent César. Quelqu'un qui eût eu connaissance du complot eût pu alors admirer l'impassibilité des conjurés à l'approche du péril. Plusieurs étaient prêteurs et, en cette qualité, rendaient la justice. Or, comme s'ils eussent eu l'esprit parfaitement libre, ils écoutaient l'exposé des différends qui leur étaient soumis et portaient des jugements aussi exacts, aussi parfaitement motivés que si rien d'extraordinaire ne menaçait. Un des accusés, condamné par Brutus à payer l'amende, en appela à César. Alors Brutus, avec son calme ordinaire, promena ses yeux sur l'assistance en disant « César ne m'a jamais empêché et ne m'empêchera jamais de juger selon les lois. Cependant, la situation non seulement était grave, mais à chaque instant écoulé sans amener César, elle s'assombrissait de plus en plus. Pourquoi César ne venait-il pas? Qui le retenait? Les présages l'avaient-ils arrêté? Écoutait-il la voix de ce devin, de ce Spurina qui lui avait dit de craindre les ides de Mars? Puis, chose qui redoublait l'inquiétude, Popilius Lénas, un des sénateurs, après avoir, plus affectueusement qu'à l'ordinaire, salué Cassius et Brutus, leur avait dit tout bas « Je prie les dieux d'accorder un heureux succès au dessein que vous méditez, mais je vous conseille d'en hâter l'exécution, car l'affaire n'est plus secrète. » À ces mots, il les quitta, les laissant pleins de crainte que le complot ne fût découvert. Pour comble d'angoisse, en ce moment, un des esclaves de Brutus accourut, lui annonçant que sa femme était mourante. En effet, Portia, vivement inquiète sur l'issue de l'événement, ne pouvait demeurer en place. Elle sortait, elle rentrait, elle interrogeait les voisins pour savoir s'ils n'avaient rien entendu dire de nouveau. Elle arrêtait les passants pour leur demander s'ils savaient ce que faisait Brutus. Elle envoyait au forum messager sur messager pour avoir des nouvelles. Enfin, comme on lui dit que, sans doute, César avait été prévenu puisqu'il n'était pas encore sorti, bien qu'il fût 11 heures du matin, elle tomba en défaillance, changea de couleur et perdit tout sentiment. Ses femmes, la voyant dans cet état, poussèrent alors des cris de détresse et appelèrent à l'aide. À ces cris, les voisins accoururent, et comme elle était pâle, immobile et froide, en un instant, le bruit se répandit par toute la ville qu'elle était morte. Mais elle, ayant repris ses sens, grâce aux soins que lui prodiguaient ses femmes, ordonna que l'on démentît le bruit de cette mort. Ce bruit, on vient de le voir, avait déjà atteint le forum et était parvenu jusqu'à Brutus. Brutus n'avait pas sourcillé. Le stoïque avait une occasion de mettre en pratique ses principes que le malheur personnel doit être compté pour rien devant l'intérêt public. Il demeura donc au Sénat, impassible et attendant César. Sur ces entrefaites arriva Antoine, qui venait, de la part de César, annoncer que celui-ci ne sortirait point et prier le Sénat de remettre la séance à un autre jour.